bonjour à toutes et à tous.
Ouais, deux voitures, une pour moi, une pour ma femme, et toutes les deux en diesel.
Nous, on est en milieu rural ici, hein, donc si on n'a pas la voiture, on est mort. On ne peut pas travailler, on ne peut pas amener les enfants à l'école, hein, on ne peut pas aller chez le docteur, on ne peut pas aller faire les courses. La voiture, c'est plus qu'indispensable, c'est notre mode de vie. Si on n'a pas la voiture,
c'est mort. C'est la cafetière qui marche tous les jours, nous, c'est la voiture qui marche tous les jours.
Ah oui, c'est ça.
Novembre 2018, on est entre Toulouse et Montauban avec Alexis, il est magasinier. C'est la colère qui monte, le sentiment d'être coincé, le début de la crise des gilets jaunes. Octobre 2021, alors que justement les prises à la pompe sont au plus haut depuis 10 ans, la colère, eh bien c'est exactement ce que l'exécutif veut éviter. Vu de France, il y a le danger de l'éruption avant le scrutin d'avril. À l'échelle de l'Union européenne, il y a aussi le danger de la révolte globale contre l'énergie chère, révolte qui bloquerait la transition écologique et le pacte vert que propose Bruxelles, pacte qui prévoit de faire augmenter encore le prix du carbone. Alors, quelle solution à long terme? Eh bien, consommer moins, isoler les logements, passer à la voiture électrique. Oui, même si les prix de l'électricité explosent, le poids dans le budget des ménages est encore loin d'être le même. À court terme, le gouvernement préparait une aide ciblée, un chèque carburant pour les plus modestes. Bonne piste. Mais alors, l'État doit-il baisser les taxes qui représentent 60% du prix à la pompe? C'est vraiment discutable. Le seul avantage, c'est que le geste serait immédiat, mais ce serait une mesure qui profiterait à tout le monde, y compris les plus aisés, et puis une mesure générale de soutien à la demande de pétrole, alors que le but, c'est bien de faire diminuer notre dépendance.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le magazine d'économie de la rédaction et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Ce samedi, notre invitée, c'est Aurélie Trouvé, ingénieure agronome, économiste, 20 ans d'engagement chez Attac. Elle publie un livre, Le bloc arc-en-ciel, que serait un programme économique inspiré des luttes sociales qu'elle a portées. Interview d'Aurélie Trouvé vers 9h45. Le débat sur la réduction du temps de travail est de retour. Travailler 32 heures par semaine, eh bien en France, une poignée d'entreprises se sont lancées. Quels objectifs, quels résultats? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Villiers au boulot et dans le studio 521. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, on parle des tests PCR avec vous.
Et oui, ils sont devenus payants depuis hier et beaucoup de questions d'auditeurs, d'auditrices sur ces tests. L'employeur peut-il les rembourser sous certaines conditions?
La réponse avec vous, c'est juste avant 10h. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, le débat. Nous allons parler du Made in France avec les débatteurs. Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Christian Chavagneux.
Bonjour.
Christian, éditorialiste à Alternatives économiques. Alors pour ceux qui nous martèlent que la France est en déclin, évidemment ce qui est assez visible dans le paysage, c'est la disparition des usines et des emplois qui vont avec. Est-ce que le plan présenté cette semaine par chef de l'État, 30 milliards quand même, nous permettra de remonter la pente? C'est parti.
À 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron remet l'économie au centre.
Emmanuel Macron dévoile ce matin son plan France 2030, un vaste plan d'investissement.
Objectif, investir dans les technologies d'avenir, hydrogène, avions bas carbone ou encore petits réacteurs nucléaires.
La clé de tout ça, c'est notre indépendance et la capacité à reprendre en main le destin de la France et de l'Europe.
Emmanuel Macron.
Je dirais que l'objectif de la France de 2030 doit être cela, mieux produire, mieux vivre, mieux comprendre le monde.
Ah, c'est plutôt France 1970, c'est le retour de Giscard d'Estaing.
Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts, candidat à l'élection présidentielle.
On a à la fois les réacteurs nucléaires, on a l'avion vert comme on avait les avions renifleurs. C'est un plan sans boussole, c'est un plan qui va donner beaucoup d'argent au lobby, mais qui ne résout en rien notre pays.
Mais son plan hier, il avait le souffle court.
Valérie Pécresse.
C'était un saupoudrage, un espèce de pêle-mêle de dépenses que l'État aurait fait de toutes les façons.
Présidente de la région Île-de-France, candidate à l'élection présidentielle.
Aujourd'hui, ce qu'il faut à la France, c'est réussir à mener à bien les grands projets industriels. L'EPR de Flamanville, 10 ans de retard. CDG Express, la ligne directe Roissy-Paris, Ariane 6, n'est pas encore fini d'être fabriqué, qu'on nous dit déjà qu'il est obsolète et que face à SpaceX, il faudra des lanceurs réutilisables.
Je pense
que ce qui est déjà important, c'est qu'on a remis l'industrie au cœur d'un projet collectif. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Alexandre Sobo, président de France Industrie.
On a dit, l'industrie, ce sera la réponse aux difficultés du pays. Là, avec le soutien de l'État, avec l'engagement des acteurs, on a une chance dans 10 ans d'être incontournable ou d'avoir défendu une position incontestable.
Je salue ce plan. Je dis simplement que dans le contexte français, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tous les plans.
Christian de Boissieu, professeur d'économie à Paris 1.
Il y a le plan de relance de 100 milliards d'euros. Il y a le plan européen que j'applaudis. Comment tout ça va s'articuler dans l'espace et dans le temps, pour moi, c'est un sujet.
Ben, c'est vrai qu'on peut se demander pour quelles raisons tous ces investissements n'ont pas été engagés il y a maintenant 5 ans.
Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, candidat à l'élection présidentielle.
Je rappelle d'ailleurs que j'ai laissé à Emmanuel Macron, qui m'a succédé, 34 plans industriels qui ont été abandonnés. Si on fait le bilan du macronisme, on peut voir que Alstom, Lafarge, Alcatel, Technip, Essilor, Suez, c'est le bilan destructif de M. Macron.
Laurent Bigorne, je me tourne vers vous. Ce thème de l'industrie, c'est quelque chose qui revient énormément, qui va prendre de la place sans doute dans le débat. Pourquoi c'est un thème de campagne? Pourquoi avons-nous besoin des usines ou pas dans une économie? Faites-nous la photo.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. La France est, on le sait, la cinquième puissance économique mondiale. Du point de vue de sa puissance industrielle, c'est-à-dire de sa part dans la production industrielle mondiale, on est en deçà. Et on est derrière des pays vis-à-vis desquels on estime avoir une avance économique, comme l'Italie à nos frontières par exemple. Et c'est vrai que quand on regarde précisément, l'industrie en France ne représente que 12,5 points de PIB. C'est les trois quarts de nos exportations, donc on voit bien que c'est important, et j'y reviendrai sur le commerce extérieur. Et quand on se compare à nos voisins directs, des pays comparables, c'est 25,5 en Allemagne, c'est près de 20% en Italie encore, mais c'est 16% en Espagne. Avec l'industrie vient l'emploi. On sait, l'emploi en France industriel direct, c'est seulement 10% de la population active. Et on va donner le chiffre de 235 000 entreprises industrielles, mais en réalité, c'est assez peu si on se compare encore une fois aux autres grands pays européens. Pourquoi ça pose un problème? Parce que notre balance commerciale en France est déficitaire depuis 99. Le déficit va encore se creuser cette année à plus de 80 milliards d'euros. Et notre voisin allemand est à 300 milliards, non pas de déficit, mais évidemment d'excédent. Il y a eu, sous le quinquennat Sarkozy, au début du quinquennat Hollande, une baisse très très forte de l'emploi industriel dans la population active, et ça n'est qu'à partir de 2013 qu'on a commencé à refaire de l'économie industrielle, de l'industrie une priorité avec le rapport Gagois, et puis, il faut bien rendre à César, la mesure prise par François Hollande de crédit, impôt, compétitivité, emploi, qui a permis de remonter ou de commencer à remonter la pente, mais on est encore loin d'avoir abouti, d'autant que la crise actuelle a replacé l'industrie française en grande tension, à la fois pour conserver ses parts de marché. Par exemple, on a vu que l'aéronautique a dévissé. Et puis, il y a deux immenses défis devant nous. Il y a le défi de la numérisation. Et puis, il y a le défi, évidemment, de la décarbonation.
Christian Chavagneux, voilà la photo de Laurent Bigorne. À un moment, on a quand même cru, et on a cru dans l'histoire pouvoir se passer des usines, pouvoir se passer d'industrie. Il y a eu cette idée de d'un pays sans usine, ça c'était Serge Turuc, Alcatel, mais Steve Jobs d'Apple, il le fait finalement. Est-ce que la puissance va avec les usines?
Tout le débat, en fait, et Laurent vient bien de le poser, c'est quelle place de la France dans la mondialisation? Quelle place de l'industrie dans la place de la France dans la mondialisation? Quelle place dans l'industrie, par exemple, quel choix on fait politiquement entre est-ce qu'il faut mettre le paquet sur le nucléaire, est-ce qu'il faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables? Jusqu'où on doit aller en termes d'autonomie industrielle par rapport à nos voisins européens, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis?
Qu'est-ce que ça veut dire autonomie? Indépendance, vous voulez dire?
Oui, tout à fait. Indépendance stratégique, comme on dit maintenant.
Souveraineté.
Souveraineté, d'accord. Si vous voulez employer ce mot. Donc, on voit bien que c'est un débat très, très important sur le plan économique. C'est de la politique économique au sens noble du terme. Alors, je voudrais un petit peu corriger la photo que vient de faire Laurent.
Parce c'est le but du débat.
Il nous a pris l'industrie au sens large, c'est-à-dire les chiffres qu'il a donnés sont justes, mais il y a la construction dedans. Et là, c'est pas vraiment dans notre débat. Ce qui nous intéresse, c'est l'industrie manufacturière. Et là, effectivement, j'ai à peu près les mêmes chiffres que Laurent, mais bien évidemment en dessous. En 91, l'industrie manufacturière, c'était 16% de la richesse produite en France. Aujourd'hui, dit la Banque mondiale, en 2020, c'est 9%. Mais en Allemagne, sur la même période de temps, c'est passé de 25% à 18%. En Italie, cité par Laurent, c'est passé de 20 à 15%. Aux États-Unis, de 16 à 11. Donc vous voyez que Certes, on se désindustrialise, mais tous les grands pays du monde se désindustrialisent. Nous, plus que les autres, on est en dessous, je suis d'accord, mais c'est une tendance générale. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pays riches, et dans les pays riches, on consomme plus de services que d'industrie. Et peut-être que la compétitivité de demain, c'est plutôt la fourniture de services locaux. On vieillit, et quand on vieillit, on a besoin de services de soins, on a besoin les biens d'équipement des ménages. On ne va pas acheter 5 voitures et 10 frigos. Alors, c'est vrai que la Covid a modifié un petit peu cet équilibre, parce qu'on pourrait plus consommer de services, bien sûr. Et puis, on a exprimé des besoins nouveaux en termes de biens d'équipement informatique, en termes de biens d'équipement de la maison, parce que notre maison est devenue un peu notre bureau, il a fallu s'équiper. Est-ce que ça va se poursuivre ou pas ? Est-ce que cette déformation des économies vers plus de services va se poursuivre ? Ou est-ce que ce qu'on a vu avec la Covid, c'est-à-dire un retour du commerce de biens et de l'industrie, va reprendre du poids ?
Vous dites retour du commerce de biens, mais on n'a jamais cessé d'acheter des choses. C'est juste qu'on les faisait venir d'ailleurs.
On les faisait venir d'ailleurs, mais ça prend une part de plus en plus faible par rapport à une économie qui est plutôt dirigée par les services. C'est ça le cœur du débat. Et avec la Covid, on a bien vu que les biens revenaient au détriment des services. Est-ce que pour demain, il faut mettre le paquet sur les services ou il faut mettre le paquet sur l'industrie ? C'est ça la question.
Alors, Laurent Bigorne.
Oui, conjoncturellement, il y a eu pendant la crise des effets intéressants. Par exemple, les gens ont consommé plus cher avec une part de leur pouvoir d'achat plus importante pour agroalimentaire. Donc on a vu effectivement des unités de production agroalimentaire, notamment au premier semestre de cette année, ouvrir et l'emploi s'y est accéléré. Moi je pense qu'il faut revenir un instant sur les facteurs. Et c'est là qu'est le cœur du débat, parce que on peut avoir un débat sur est-ce qu'on a un problème de compétitivité ou pas. Ceux qui refusent ce problème de compétitivité vont dire aujourd'hui la France elle est en compétition avec des pays à haute valeur ajoutée, elle est en compétition avec des pays qui ont au fond relativement le même coût de l'emploi industriel que nous. C'est vrai en Europe et encore, on est beaucoup plus cher que l'Italie, on est un peu moins cher que l'Allemagne aujourd'hui, mais il faut voir où est le positionnement de ces pays. L'Allemagne, elle est sur un positionnement qui lui permet, par exemple, dans le champ de l'industrie automobile, de dégager beaucoup plus de valeur ajoutée qu'un constructeur automobile français à date. Et donc, en réalité, il y a un problème de compétitivité sur au moins deux segments. L'emploi qualifié en France est très très cher. C'est tout l'emploi d'ingénieurs. Et ça, ça nous place évidemment dans une question qui est la tension que signifiait tout à l'heure Christian, c'est que si on veut garder des centres de R&D, des centres de décision,
recherche,
il y a des décisions à prendre. Exactement.
Et c'est le coût du travail qui est le plus important pour la localisation industrielle ?
C'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs.
Vous insistez sur le deuxième coût du travail, comme d'habitude.
Non, j'y viens, je vais vous rassurer, je vais tout de suite parler des impôts de production. C'est-à-dire de ces impôts qu'on perçoit avant même que l'entreprise en question n'ait fait un euro de bénéfice. Et c'est là où on a les plus gros effets de décalage, puisqu'on est en moyenne deux fois plus cher que les autres pays européens. Mais je ne vais pas être dans la caricature, même si ces points ils sont importants et qu'on ne peut pas les sortir du débat. On a une insuffisance en France de financement des entreprises technologiques. On a un système d'épargne qui n'est pas orienté vers le système productif pour permettre justement son financement. Ouais, et puis, faux, là où Babresse, Solvency 2, c'est qu'il y a une faiblesse des compétences dans la population, et notamment, il y a une baisse des compétences scientifiques, et il y a tout un débat que je trouve très intéressant dans la campagne et qui s'ouvre, et qu'on voit à la une des journaux, il y a la présomption, et cette présomption, elle repose sur un certain nombre de données quantitatives que le recul de la France, dans le champ scientifique, va poser des problèmes de compétitivité de long terme.
Là, je suis d'accord.
Et là où je m'étonne, comme vous ne citez pas, je vais me donner la parole à Christian Chevagneux, le problème de qualité. La compétitivité, c'est du coût, mais c'est aussi la qualité, c'est aussi de ce qu'on produit.
Ça va avec le financement, ça, Alexandra. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'investir, évidemment, on ne suit pas la compétition en termes de qualité.
En tout cas, on n'a pas de problème de productivité, c'est-à-dire d'efficacité de la production. Quand on met du travail, des gens et du capital, des machines en France, on est super efficace. Le PIB par heure travaillée, la richesse que produit chaque personne qui a un boulot en France, l'OCDE nous dit c'est à peu près 67-68 $. Suède, Danemark, Norvège, États-Unis, ils sont un peu au-dessus, mais on est au même niveau que l'Allemagne, on est largement au-dessus de l'Italie, de l'Espagne, de la moyenne de la zone euro et du Royaume-Uni. Donc on n'a pas un problème d'efficacité productive. On est un peu plus cher, un peu si, on manque de qualité, mais en termes d'efficacité, on est là. Le Fonds monétaire international, cette semaine, nous a donné une nouvelle étude en disant « Mais finalement, si vous voulez l'industrie compétitive, qu'est-ce qu'il faut à l'origine ? C'est quoi le truc de base ?» Et là, le FMI nous dit « C'est le rôle de la recherche publique fondamentale. » Et là,
vous tombez d'accord. Vous êtes en train de converger tous les deux.
Tout à fait. Et là, on a une note de Trésor qui nous dit que la France n'est pas dans les pays leaders en termes de recherche publique fondamentale. Et comme disent les économistes, sa recherche n'est pas à la frontière d'efficience. C'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on a de la recherche fondamentale, on n'est pas sur le top du top de la technologie. On l'a vu avec les vaccins d'ARN messager. C'était de la recherche publique américaine, publique, qui a permis de faire des vaccins. Et en plus, on est dans un environnement pauvre en innovation au sein de l'Union européenne. J'étais complètement surpris de découvrir que nos dépenses en recherche et développement, en valeur, c'est 650 milliards de dollars aux États-Unis. Chez nous, c'est 400 milliards. La Chine, c'est déjà 300 milliards.
Chez nous, c'est l'Europe. Hein,
Chez nous, c'est l'Europe. Okay. On est largué par les États-Unis. On est en train de se faire rattraper par la Chine.
Est-ce que pour remonter la pente, est-ce que pour cesser d'être largué, le plan France 2030 présenté cette semaine, Laurent Bigorgne, va nous aider ? Est-ce que ça va nous donner des usines et des emplois ?
D'abord, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et sur une période de temps qui est assez ramassée. Contrairement à ce qui a été dit dans le petit son, il n'y a pas tant de saupoudrage que ça. On a déjà vu bien pire en termes d'argent public.
Oui, ça peut être pire, c'est sûr.
Il y a une dizaine de priorités. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les cinq principes. Comment on va sécuriser les approvisionnements ? Vous voyez, par exemple, en ce moment, si on se dit qu'on veut en Europe une industrie de la batterie, il va falloir du nickel. La Chine achète des terres où il y a du nickel partout dans le monde. Et c'est un des enjeux, vous le savez, de la Nouvelle-Calédonie et du référendum de la fin de l'année. Deuxième sujet, le deuxième principe, c'est qu'il va falloir accélérer sur le cloud, la cybersécurité et l'informatique quantique. Troisième principe, on vient d'en parler, on vient d'approcher ce sujet. Le plan nous dit il va falloir insister sur le recrutement et la formation des talents. Quatrième point, il va falloir donner à nos start-up industrielles une capacité en financement qu'elles n'ont pas à ce stade. Et c'est pour ça que l'État va mettre 10% du plan, 3 milliards en fonds propres. Et enfin, et c'est là où on va, à mon avis, regarder si l'État agit ou pas, est-ce qu'on va être capable d'agir en mode commando ? Est-ce qu'on va être capable de traiter un certain nombre de problèmes réglementaires ? Je prends un exemple.
Oui, parce que commando, ça c'est les éléments de langage d'Emmanuel Macron.
Il a fallu 2 ans pour que, entre la décision d'installer Tesla à Berlin et l'ouverture de l'usine, il a fallu 2 ans, c'est cool. Et l'usine va ouvrir sans permis de construire. Je dis pas que c'est un modèle, mais quand même, ça doit nous interroger parce que si on avait voulu faire la même chose en France, à n'en pas douter, on aurait pris 3 ou 4 ans.
Christian Chavagneux.
Moi, je trouve que les trois principes du plan, c'est un, il faut consommer et produire plus, et la technologie va nous aider. Le président, il est vraiment, si vous avez regardé la mise en scène, on était vraiment dans les années 60. Où est la transition écologique ? Où sont les investissements dans le ferroviaire ? Où sont les économies d'énergie ? Où est la rénovation énergétique des bâtiments ? Où est l'agroécologie, etc.
Mais ça,
en fait,
se cache
derrière ce plan un soutien aux industries en difficulté. Qui va toucher l'argent ? L'automobile, l'aéronautique, et il faut sauver le soldat nucléaire avec les petits réacteurs sur lesquels la Chine, la Russie, les États-Unis sont déjà bien plus avancés que nous. Et puis, il y a un troisième principe qui est, je décide, moi, le président, et le privé va suivre. Or, la Cour des comptes, cette semaine, nous a dit, ras-le-bol de toutes ces multiplications des plans. Un, on s'y perd. Deux, il n'y a pas d'évaluation des effets. Et c'est pour ça que la majorité des économistes sont dubitatifs. Je vous donne un exemple, quand même. Un seul exemple, comme Laurent, c'est les semi-conducteurs. Laurent nous dit, il faut sécuriser notre approvisionnement en puces, a dit le président de la République, en puces, en sac à puces, parce qu'on ne va pas faire de semi-conducteurs. Je vous donne un seul exemple.
Allez-y.
TSMC, c'est le leader mondial des semi-conducteurs. Il vient de débuter la construction d'une usine en Arizona, aux États-Unis. Vous savez combien ça coûte, Alexandra ? 12 milliards. 12 milliards sur 3 ans. Et il prévoit 6 usines de plus sur les 3 prochaines années.
Donc vous pensez
TSMC, le leader mondial, va mettre 300 milliards. Et nous, sur 5 ans, on va mettre 6 milliards. Ah bah, si on y arrive avec ça,
c'est bien
bravo.
Pour ça qu'il faut raisonner en européen. Les Allemands ont décidé de mettre 10 milliards.
C'est pas ce qu'a dit le président de la République.
Oui,
le président de la République
a dit en France. Moi, je me moque de ce qu'a dit le président de la République. Ce qui compte, c'est de raisonner en européen.
Donc c'est un exercice de com et de sauvetage des vieilles industries françaises.
Pas seulement.
C'était le débat de ce samedi 16 octobre. Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. Il est 9h31 sur France Inter. Notre invitée Aurélie Trouvé sera dans ce studio un peu avant 9h45. Mais tout de suite, on va ouvrir le dossier de la semaine, le dossier du temps de travail. Est-ce qu'il faut le réduire ? Ce débat-là aussi, il revient. Alors, il revient par la gauche, d'Anne Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Fabien Roussel. Chez les écologistes, le candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, aussi, veut le rouvrir avec une convention citoyenne. Et ce n'est pas un sujet exclusivement français. Ce matin, on va aller voir ce qui se passe ailleurs, par exemple en Espagne.
Trabajar 4 días a la semana en lugar de 5 es un asunto que sigue siendo motivo de debate entre los expertos. Algunos consideran que podría aumentar la productividad, otros piensan justo lo contrario.
Alors en Espagne aussi, on débat de la semaine de 4 jours. Quel effet sur la productivité, les expertos ne sont pas d'accord. Bonjour Marie-Hélène Ballestero.
Bonjour.
Marie-Hélène, de l'autre côté des Pyrénées, le gouvernement de Pedro Sanchez a annoncé que la semaine de 4 jours, elle va être testée en 2022 dans 200 entreprises volontaires. Où en êtes-vous ? Est-ce que le projet avance ?
Eh bien oui, cela avance à petits pas. En fait, l'idée de la semaine de 4 jours sans réduction de salaire a été lancée il y a plus d'un an en Espagne par la formation Más País, un parti de gauche radicale fondé par des anciens de Podemos. Alors au sein même du gouvernement Sanchez, les avis étaient partagés ces derniers mois, mais peu à peu, le projet semble prendre forme. Actuellement, Mas País et le ministère de l'Industrie sont en train de négocier et de travailler ensemble pour définir la stratégie à suivre. L'idée, comme vous le disiez, est de mettre en place un projet pilote qui sera testé à partir de 2022 dans environ 180 à 200 entreprises volontaires qui n'ont pas encore été définies. Et pour aider ces entreprises dans la phase de transition, 50 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement pour une durée d'environ 3 ans, dont 10 millions en 2022. Alors ce test permettra de comparer les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours avec les entreprises dites normales afin d'évaluer les effets concrets sur l'emploi ou la productivité notamment.
Et à présent, qu'en disent les syndicats, le patronat, les économistes chez vous ?
Alors, là aussi, les avis sont partagés. Les syndicats sont favorables à cette initiative, mais sans réduction de salaire, car deux grandes entreprises espagnoles, Telefónica et Desigual, ont lancé dernièrement cette idée d'une semaine de 4 jours, mais en baissant aussi les salaires, ce qui ne plaît pas forcément aux salariés et aux syndicats. Quant au patronat, il ne s'est pas prononcé officiellement jusqu'à présent. Les patrons attendent, de voir si le gouvernement met vraiment en place cette mesure que beaucoup ne prennent pas du tout au sérieux et considèrent comme une véritable utopie. C'est le cas aussi de nombreux économistes qui restent sceptiques quant à la viabilité de la semaine raccourcie en Espagne à cause de la faible productivité et de la prépondérance des petites et très petites entreprises dans ce pays qui sont orientées en plus vers des secteurs traditionnels à faible technologie comme la restauration. Un type de structure où la mesure devrait être plus difficile à mettre en place que dans des secteurs très dynamiques selon les experts. Malgré tous ces freins, le projet pilote doit être lancé l'année prochaine et selon Mas País, la semaine de 4 jours apportera de multiples bénéfices d'un point de vue environnemental, social et économique.
Marie-Hélène Ballestero avec nous en direct de Madrid. Merci à vous. En France, peut-on aller sous les 35 heures et par exemple passer aux 32 heures, comme le demande la CGT ? Pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce débat est complètement décalé, ce sont ces mots. Pourtant, quelques chefs d'entreprise se lancent, ils réduisent le temps de travail de leurs salariés. Quels objectifs ont-ils ? Quelles conditions proposent-ils ? Ils ont parlé à Anaël Verzo.
Je m'appelle Susanna Mendès, je suis secrétaire générale sur IPREMA. IPREMA, c'est une entreprise qui réceptionne sur ses sites des déconstructions de bâtiments et de voiries. Et ces matériaux sont transformés en granulats recyclés qui sont réutilisés, notamment à la construction des routes. IPREMA est aux 35 heures sur 4 jours depuis le 2 juin 1997.
Donc ça fait par jour une durée de travail qui est plus longue, forcément.
8h45 minutes. Mais l'objectif pour 2022, c'est de passer à 32 heures. Je pense que pour nous, c'est plus facile de passer de 35 heures à 32 heures en 2022 qu'à l'époque, passer de 39 heures à 35 heures, parce qu'on a déjà l'habitude de la semaine de 4 jours. Là, la réduction du temps de travail, elle est que de 3 heures par semaine. À l'époque, on était sur 4 heures et c'était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on entend plus facilement parler de la semaine de 4 jours, puisqu'il y a d'autres pays qui se sont lancés dans cette organisation du temps de travail. C'est plus courant.
Mais est-ce que vous ne craignez pas de perdre en productivité, en compétitivité ?
Non, parce que quand on est passé de 39 heures à 35 heures, en fait, l'idée principale, c'est qu'on a réduit le temps de travail des hommes, mais les machines, elles sont passées de 39 heures à 44 heures par semaine. Donc l'idée, c'est de faire travailler moins les hommes, mais de faire travailler davantage les machines. Et de créer des emplois, bien sûr, en contrepartie.
Et du coup, les salariés, vous allez les payer sur 32 heures ou sur 35 heures ?
Les salaires ne se seront maintenus.
C'est la première question. Travailler moins, mais pour gagner combien ? Deuxième question. Travailler moins, mais chaque salarié devra-t-il avoir la même productivité qu'avant ou pas ? Dans cette entreprise industrielle où est allée Anaël Verzo, ce sont donc les robots qui compensent. Et puis enfin, troisième question à poser aux partisans de la réduction du temps de travail. Est-ce que chaque entreprise, chaque secteur doit avoir le choix ou bien est-ce qu'il faut une loi, la même pour tout le monde comme pour les 35 heures ? Voilà, trois questions. Et pour avoir des réponses, on suit le micro de notre reporter Anaël Verzo.
Je me trouve à côté de Lyon, à Limonest exactement. devant les bureaux de l'entreprise LDLC. Ce sont des experts en informatique. Il y a une affiche gigantesque sur le bâtiment avec les visages des employés. Et il est écrit 25 ans de bonheur et de sourire partagé. Bon. En tout cas, chez LDLC, ils sont passés aux 32 heures par semaine. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors là, il y a une cafétéria à l'entrée avec des portes vitrées. Voilà, donc là, je vais sur la terrasse et il y a trois personnes qui sont en train de discuter, qui ont fini de manger visiblement. Bonjour. Pardon de vous déranger, je travaille à France Inter.
Oui.
Je me demandais si vous étiez aux 32 heures.
On est tous en fait à 32
heures. Ah, vous êtes tous aux 32 heures.
Oui. 4 jours par semaine.
Votre prénom, pardon, c'est comment?
Moi, c'est Anthony.
Et vous, votre prénom?
Moi, c'est Aurélien.
Vous faites quoi ici chez LDLC, tous les deux?
Alors, Aurélien comme moi, en fait, on travaille au support technique. Donc, on gère la clientèle qui nous appelle pour des conseils, de l'aide ou pour d'autres pannes.
Là, vous êtes en pause, vous venez de manger, non? Vous avez déjeuné?
C'est exactement ça, tout à fait.
Ouais. D'ailleurs, vous finissez la pause.
Qu'on y retourne.
Dans 5 minutes.
Ah oui, vous avez quand même des horaires fixes.
Oui, tout à fait. Bah, comme n'importe où, en fait, on a un planning à respecter avec nos heures de travail, nos heures de pause. Donc, mis à part le fait qu'on travaille un petit peu moins, les plannings n'ont pas beaucoup bougé.
Un petit peu bougé.
C'est ça. En fait, c'est juste les horaires qui ont évolué au courant de la semaine pour respecter les 32 heures, justement.
Il y a eu une réorganisation, des plannings. Et on nous a d'ailleurs laissé le choix de la nouvelle planification.
Donc, et du coup, vos horaires, c'est quoi?
Pour ma part, c'est 9h-18h.
C'est ça.
Et de toute façon, c'est 9h-18h pour tout le monde, étant donné qu'on est aux 32 heures, avec des pauses de 12 à 13 ou de 13 à 14 en fonction des équipes.
Bon, bah merci. Allez, bon, je vous laisse retourner travailler. Merci, au revoir.
Au revoir.
Voilà, tout le monde est reparti travailler. Et là, maintenant, on va rentrer à l'intérieur des bureaux.
Bonjour.
Bonjour. On rentre dans une salle qui est un open space. Et là, il y a une trentaine de personnes qui travaillent derrière leur écran d'ordinateur. C'est le service client, là, Johan?
Vous êtes au service client, oui, sur le plateau, l'open space de la relation client.
Ça fait longtemps que vous travaillez là?
Oui, ça fait bientôt 9 ans.
Et alors, vous travaillez ici, sur place, pendant 32 heures?
Oui.
Votre salaire, il a bougé ou pas, quand vous êtes passé à 32 heures?
Il a même augmenté.
C'est indiscret si je vous demande combien vous êtes payé?
J'ai entre 1600 et 1800 en net.
1700 net?
Ouais, environ, c'est ça.
D'accord. Je vous remercie beaucoup.
Avec plaisir.
Merci, et puis je vous laisse continuer à bosser.
Merci beaucoup.
C'est pas possible d'arriver comme ça au boulot avec ce genre de pantalon. Non, c'est pas possible. Non.
Et ça coûte même plus cher qu'un jean sans trou.
Tristan,
vous avez quel âge?
Approximativement 32.
Et je me demandais, c'est bien les 32 heures ou...
C'est pas mal, ça laisse du temps libre dans la semaine.
Non, mais non, parce que lui, même aux 35 heures, il en faisait 25 alors. Donc pour lui, ça lui fait un surcroît de travail, quoi.
Bon, et du coup, d'accord.
On va bosser un peu.
Au travail.
Bon, continue bien sûr. Et bonne journée.
À vous aussi, au revoir. Les salariés ont l'air de bonne humeur et occupés. Je me dirige maintenant vers le bureau de Laurent de la Clergerie, le président fondateur de LDLC.
Bonjour.
Laurent de la Clergerie.
Bonjour, enchantée.
Et donc Annaëlle Verzeau de France Inter.
Ah, et je vois que vous avez un panneau avec des petits mots de remerciement là dans votre bureau.
Ça, c'était...
Merci patron, quelle joie de travailler pour vous. On est heureux comme des fous, Antonin. Merci pour tout, merci.
C'est l'entrepôt de Saint-Quentin, c'est toutes les équipes logistiques qui m'ont amené ça en début d'année, en cadeau, en surprise, pour tout ce qu'on a mis en place dans l'entreprise. Donc ça fait plaisir. J'avoue même que ça m'a fait pleurer quand je l'ai eu. Parce que c'est pas le truc qu'on attend du tout. C'est précieux. Non, c'est vraiment, ça montre que ce qu'on met en place, ça fonctionne et que les gens sont contents et qu'ils le vivent très bien. Et c'est ça fait plaisir parce que quand on cherche, c'est ce qu'on cherche à faire quand on met tout ce qu'on a mis en place. En fait, il y a 3 ans, je suis venu vers les équipes. On est en bourse, on est coté en bourse. On avait annoncé qu'on ferait 1 milliard de chiffre d'affaires. Et je rencontre les équipes régulièrement tous les ans. Et cette année-là, je suis venu vers eux en leur disant, j'ai fait une grosse connerie. Enfin, j'ai annoncé en bourse qu'on ferait 1 milliard dans 3 ans. Et en fait, on va oublier cet objectif entre nous. Et on va s'occuper de notre bien-être. Et parce qu'on sera bien, un jour, on fera 1 milliard. Mais on fera pas 1 milliard parce qu'on doit le faire. Et en fait, depuis cette année-là, j'ai travailler dans l'entreprise pour que les gens soient le mieux possible et installer ce bien-être progressivement, la semaine de 4 jours 32 heures étant le graal final. Et c'est vraiment les 4 jours pour moi qui étaient importants, c'était pas les 32 heures. Je pense que si on était passé à 32 heures, ça ne marcherait pas aussi bien. Si on était passé à 32 heures sur 5 jours. Je m'étais dit, le gars qui me fait 30 colis par heure, il va pas en faire 33 demain, sous prétexte qu'il faut rattraper 3 colis de plus, vu qu'il y a 10% de temps en moins. Bah si, il les fait. Et du coup, là, j'avais prévu de recruter, et non, j'ai pas eu besoin. J'avais calculé que j'aurais une trentaine d'embauches et que ça me coûterait 3% de la masse salariale, à peu près de coûts derrière. Mais en réalité, j'ai eu aucun coût parce que finalement, ils travaillent autant qu'avant. Comme on a fait des économies d'un côté, je me suis dit, je peux en reverser une partie à ceux qui travaillent de façon un peu plus intense que les autres sur des salaires très bas. L'année dernière, les bas salaires ont été augmentés de 10% en moyenne. Et aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, c'est SMIC plus 25%.
Vous avez fait carrément des économies en passant aux 32 heures.
C'est ça. Je vais caricaturer. Il serait à 28 heures, je pense que ça marcherait encore. Tellement l'efficacité a été forte.
Et avant de partir, Laurent de la Clergerie me dit qu'il passe de plus en plus de temps à recevoir des chefs d'entreprise qui viennent lui poser des questions sur la semaine de 4 jours. Mais si le sujet intéresse beaucoup, son application en France reste marginale. Ailleurs dans le monde, le phénomène se développe. Par exemple, les salariés de l'entreprise Desigual travailleront 34 heures au lieu de 39 heures et sur 4 jours, mais avec des salaires revus à la baisse. Alors, les 32 heures peuvent-elles être appliquées à l'ensemble des entreprises ? Emmanuel Gessua est économiste, directeur des études à Rexecode.
Ça paraît difficilement extrapolable à l'ensemble d'un secteur et a fortiori à l'ensemble de l'économie. Une nouvelle réduction du temps de travail, ça pèserait forcément sur les acteurs économiques, avec un partage qui serait à faire entre les salariés et les entreprises.
Est-ce que vous connaissez des entreprises chez qui vous êtes sûr que ça ne pourra pas marcher ?
On a eu en un sens un test global avec la grande réduction du temps de travail au début des années 2000 et ça s'est bien traduit par une hausse du coût horaire du travail parce que les 35 heures étaient payées 39. On a vu une corrélation parfaite avec une dégradation de la compétitivité des entreprises, de la compétitivité à l'export, des pertes d'activité industrielle en France par rapport à nos voisins européens depuis le début des années 2000. Si on avait gardé la même proportion des exportations européennes qu'on avait au début des années 2000, on aurait 200 milliards d'euros de revenus d'exportation en plus par an.
C'est la même situation ?
C'est difficile de dire que les effets seraient exactement de la même ampleur. Mais en tout cas, qualitativement, oui, ils seraient sans doute de la même nature. Ça irait à rebours des efforts, d'ailleurs, qui ont été faits, efforts budgétaires, notamment sur le précédent quinquennat, pour baisser le coût du travail avec le CICE, le pacte de responsabilité, et qui ont commencé, avant la crise sanitaire, à arrêter l'hémorragie, justement, la désindustrialisation et la perte de parts de marché par rapport à nos partenaires européens. Donc, effectivement, là, il y aurait un retour à 180 degrés.
Ces entreprises qui passent aux 32 heures, c'était le reportage d'Anna Elverzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Notre invité vient de nous rejoindre dans le studio 521. Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour Alexandra.
Économiste, jusqu'à mardi dernier, vous étiez porte-parole de l'association altermondialiste ATTAC. Vous restez à son conseil scientifique. Vous publiez donc ce livre, Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive. L'idée, c'est de définir ce que pourraient être les grandes lignes d'un programme économique qui serait inspiré par les luttes sociales que vous avez porté pendant cette vingtaine d'années d'engagement. Et Aurélie Trouvé, est-ce que les 32 heures font partie de ces grandes lignes ?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui importe, effectivement, c'est plus les 32 heures. Je pense que la semaine de 4 jours, elle peut être de 5 jours selon les besoins des entreprises. C'est vraiment la réduction du temps de travail. Premier argument, parce que ça permet de créer des 1 à 2 millions d'emplois, selon le calcul fait par certains collègues. Bon, ce qui quand même permettrait de réduire une grosse partie du chômage en France. Puis, le deuxième gros argument, c'est que ça laisse plus de temps libre aux travailleurs et travailleuses pour se distraire, pour sa famille, etc. Et puis, c'est vrai aussi, sans doute, un meilleur bien-être au travail, une meilleure émancipation au travail, mais je dirais que la réduction du temps de travail ne suffit pas, parce qu'on a vu que l'application des 35 heures, des lois Aubry au début des années 2000, ça a pu s'accompagner aussi du blocage, ou voire de la baisse de salaire dans certaines entreprises, de l'intensification, on l'entend dans le reportage du rythme, enfin l'augmentation du rythme de travail, ou sa flexibilisation, donc ça doit s'accompagner aussi de mesures qui visent à rehausser les plus bas salaires, et c'est un débat, hein, la hausse du SMIC, mais aussi donner plus de poids aux salariés dans les entreprises, par exemple.
Alors, j'entends l'argument sociétal, j'entends l'argument ça va créer des emplois. Est-ce que vous en êtes si sûr? Il y a toujours ce débat sur combien d'emplois ont été créés grâce aux 35 heures, créés ou préservés. Et il y a cette idée que les emplois, c'est pas un gâteau qui se partage.
Oui, alors les évaluations quand même laissent entendre qu'il y a une vraie création d'emplois, 350 000 effectivement emplois liés aux 35 heures, voilà, et aux lois Aubry. Donc je veux dire, aujourd'hui quand même, c'est globalement admis qu'il y a eu la création de centaines de milliers d'emplois créés par ces 35 heures. Donc voilà.
Mais pour une entreprise, on l'entend aussi dans le reportage, il y a le risque quand même. Il y a cette idée qu'on est dans une économie ouverte, donc. C'est ce que disait le dernier son. L'économiste rappelle que après les 35 heures, il y a eu des entreprises qui se sont dit on perd de la compétitivité. Donc on a fait le CICE, le pacte de responsabilité. Certains salaires, vous venez de le dire, ont été freinés. Il y a un coût quand même. Qui paye tout ça? Est-ce que c'est le salarié? Est-ce que c'est le contribuable?
Alors la première chose, ça a été dit dans le reportage pour l'Espagne, c'est qu'on peut tout à fait envisager des mesures de transition, des aides de transition en particulier dans les secteurs qui auraient, et les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui auraient le plus de difficultés à les mettre en œuvre. Ensuite, il faut quand même rappeler qu'il y a un taux de marge des entreprises qui est quand même super élevé en ce moment. C'est pas comme si, en moyenne, les entreprises tiraient beaucoup la langue. Et puis, il y a la question quand même, effectivement, du partage de richesses dans l'entreprise entre, d'une part, les dividendes des actionnaires, ou les profits de capitaux, si vous voulez, et les salaires. Et effectivement, il y a une tendance aujourd'hui, de plus en plus, depuis plusieurs dizaines d'années, à partager les richesses, la création de richesses, et la verser davantage vers les actionnaires, si vous voulez, les profits des capitaux, au détriment des salaires et de l'investissement. Et il faut inverser aussi cette tendance. Donc là, ça demande toute une politique générale qui vise aussi à une meilleure répartition. Donc oui, ça demande... Évidemment, le passage aux 32 heures, c'est pour moi une réflexion beaucoup plus générale sur ce qu'on attend de l'économie, et peut-être de remettre l'économie au service de l'humain et pas l'humain au service de l'économie.
Est-ce que je dois comprendre en sous-texte, c'est que vous dites, en effet, la réduction du temps de travail, c'est peut-être pas la priorité en 2021. On a compris que c'est les salariés, ce qu'ils disent, c'est qu'ils aimeraient gagner plus. Ils aimeraient peut-être pas travailler moins.
La réduction du temps de travail est extrêmement importante, mais qu'elle doit s'accompagner d'une série d'autres mesures qui permettent, à celles et ceux qui travaillent, de mieux gagner leur vie, d'être dans des meilleures conditions de travail. Et donc, ça doit s'accompagner, par exemple, puisque c'est un débat actuellement, par la hausse du SMIC, étant donné la hausse du coût de la vie. Il est temps, par exemple, d'augmenter le SMIC, ce qui n'a pas été fait récemment, puisqu'on n'a fait que suivre l'inflation. Et on n'a pas, par ailleurs, on n'anticipe pas du tout les très fortes hausses, par exemple, du coût de l'énergie pour les ménages.
Il vaut mieux augmenter le SMIC ou bien donner aux gens qui ont des bas salaires des primes d'activité, ce qui est la méthode actuelle.
Prime d'activité, vous savez, derrière, il n'y a pas de versement, par exemple, pour les retraites. Ce qui est important, c'est la hausse du SMIC et tous les avantages sociaux qui vont avec.
On dit qu'ils sont après coincés, les SMICards, dans cette trappe à bas salaire.
Alors d'abord, beaucoup d'études économiques montrent que la hausse du SMIC permet d'avoir des effets en chaîne sur l'ensemble des autres, notamment les plus bas salaires. Et ensuite, oui, c'est pour ça que je dis qu'aussi, il faut que ça s'accompagne d'autres mesures donnant plus de poids, par exemple, aux salariés dans l'entreprise, permettant aussi de rediscuter avec les syndicats les grilles de salaire, effectivement.
Alors, dans votre livre, vous voulez donc proposer un autre modèle, vous commencez à nous l'exposer, aux classes populaires, moyennes, leur dire qu'un autre monde est possible. Ça passe par quoi? Vous parlez beaucoup de planification. On sent que l'État serait autoritaire vis-à-vis des entreprises. Vous riez, mais j'ai ce sentiment, voire qu'il y aurait des nationalisations et puis beaucoup de création d'emplois publics. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je dessine une photo exacte de ce que vous pensez, vous, alors, au Conseil scientifique d'attaque?
D'abord, la planification, c'est pas le Gosplan. Hein. Donc, c'est une planification, certes, qui soit pilotée par la puissance publique étatique, par l'État, mais qui s'appuie très fortement sur les collectivités locales, mais aussi les associations, les syndicats, tout un tas de parties prenantes de la société, voire pourquoi pas s'appuyer pour la définition des besoins sur une convention citoyenne telle qu'il y a eu, enfin il y a eu l'expérience avec sur le climat.
Le climat, oui.
Voilà, qui soit une planification réellement démocratique, mais qui ne soit pas non plus un gadget comme le Haut Commissariat au Plan, voilà, et qui d'abord définisse les besoins. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'une économie des besoins socio-écologiques, et qu'à partir de ces besoins-là, bon, moi, que je pense être, entre autres, une planète vivable pour demain, un emploi de qualité pour chacune et chacun, et une égalité réelle pour toutes et tous, entre toutes et tous, partir de ces besoins, et ensuite définir des grandes mesures, des grands leviers économiques. Et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, au centre, la question de l'emploi, c'est-à-dire que l'allocation de l'emploi et du capital, d'ailleurs, ne soit plus le fait essentiellement de décisions d'entreprise drivées ou pilotées par la rentabilité financière, mais des choix de long terme, de 10-20 ans,
faites par l'État, faites par les conventions citoyennes,
faites par qui passe par un vaste débat démocratique, et cette planification permettrait d'entrevoir les grands investissements à réaliser sur les 10-20 ans pour faire face notamment à l'urgence écologique et sociale,
mais aussi les désinvestissements
des secteurs les plus polluants. Mais justement, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que la planification, d'abord, c'est pas que l'État. Ça peut aussi d'ailleurs passer pas seulement par la puissance publique, je parle des communs, je parle de l'importance de l'économie solidaire, des associations, etc., qui pourraient très bien avoir des moyens vraiment supplémentaires, mais évidemment sous conditions. Mais je crois que voilà, il faut sortir de cette opposition entre d'un côté l'État, la puissance publique, et de l'autre les communs qui traversent l'économie de gauche ou l'économie hétérodoxe. Je crois qu'il faut relier les deux. Je crois que cette idée de planification démocratique, écologique et sociale, Elle est centrale.
Aurélie Trouvé, je vous emmène sur le dossier fiscalité parce que c'est une grande partie de l'action d'attaque.
Oui.
On a eu cet accord de 136 pays pour taxer les multinationales avec un taux minimum de 15%. Le mot qu'on a entendu, c'est historique. Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous satisfait pas ?
Alors d'abord parce que le taux qui aurait dû prévaloir aurait dû être bien supérieur, donc bon, beaucoup d'économistes aujourd'hui réclament un taux à 25%. Le risque, c'est que ce soit un signal d'un alignement vers le bas de cette fiscalité sur les bénéfices des sociétés, ensuite parce qu'il y a pas mal de trous dans la raquette,
mais c'est pas un premier pas, quoi. C'est pas le bon chemin.
Alors,
et on ne peut pas imaginer qu'on ira plus loin.
Ce qu'on dit, c'est que c'est un premier pas tout à fait insuffisant. et que ça, surtout, il faut pas en rester là, et que ça n'est pas si historique que cela, même si on va dans la bonne direction, malgré certaines limites, et quand même, il y a un certain nombre d'économistes, voilà, qui pointent aussi du doigt le fait que ça peut, enfin, que ça ne devrait pas. Il ne faut pas que ce soit utilisé comme la fin de l'histoire, quoi, voilà, sur la fiscalité.
Vous avez commencé à militer il y a 20 ans. À cette époque-là, personne ne parlait des inégalités dues à la mondialisation, ou presque.
C'est vrai.
De relocalisation, encore moins d'urgence climatique, de la nécessité de faire payer aux multinationales une juste part d'impôts. Est-ce que vous voyez un progrès ou pas dans la conversation mondiale ?
Alors,
question personnelle.
Oui, alors
j'appelle ça une conversation mondiale, mais dans les thèmes.
Même à Davos,
on parle de l'urgence climatique et des inégalités.
Mais quelque part, ce qu'on dit à Attac, c'est que quand on parlait de la taxe sur les transactions financières, Christian Chavagneux pourrait en parler aussi, il y a 20 ans, on passait pour les dangereux révolutionnaires gauchistes. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un thème quand même porté y compris institutionnellement jusqu'à la Commission européenne. Donc oui, il y a des victoires du point de vue des idées, je dirais. Après, du point de vue des faits,
on a une politique par
un gouvernement, et sous Emmanuel Macron en particulier, qui est une politique, pour moi, de régression sociale et écologique. Bon, voilà, c'est donc on a peut-être, sur le plan des idées, on a avancé et on a gagné parfois, mais là je pense qu'on est en période de régression, ça c'est sûr.
Aurélie Trouvé, économiste, conseil scientifique d'Attac, votre livre c'est Le bloc arc-en-ciel pour une stratégie politique radicale et inclusive, publié à La Découverte. Merci d'avoir été l'invité dont n'arrête pas l'écho. Sandrine Foulon, beaucoup de questions ce matin sur les tests PCR qui sont payants depuis hier. Nadia n'est pas vaccinée, elle travaille dans une salle de gym. Astrid, elle est vaccinée, mais elle doit faire des tests pour des salons professionnels. Leurs employeurs doivent-ils rembourser ces tests? Vous demande donc Nadia et Astrid.
Alors je commence par le plus simple, le cas d'Astrid. Pour vous, aucun problème à partir du moment où vous êtes vacciné, le test PCR est gratuit. C'est le même régime pour les personnes qui ont une prescription médicale. Tous les salariés cas contact, par exemple, ou qui présentent un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, ou qui peuvent prouver qu'ils ont une contre-indication au vaccin, n'ont rien à débourser. Pour les autres, depuis hier, c'est 44 euros le PCR et de 25 à 30 euros pour les antigéniques. Ça coûte moins cher que chez nos voisins européens, mais ça commence à faire un budget. L'objectif du gouvernement est très clair. Il veut éviter les tests de complaisance pour aller au ciné, en terrasse ou en voyage. Et surtout, il espère, en leur compliquant la vie, inciter les non-vaccinés à franchir le cap. Pour vous, Nadia, il faudra produire un test tous les 3 jours, puisque vous travaillez dans un établissement qui accueille du public, et l'employeur n'est pas tenu de vous le rembourser. Si le gérant de votre salle de gym décide de son propre chef de faire un geste, il doit savoir que ce ne sera pas considéré par les URSSAF comme des remboursements de frais, mais comme du salaire chargé. Tout ça est très dissuasif.
Nadia travaille dans une entreprise qui doit vérifier le pass sanitaire de ses salariés. Mais Sandrine, comment est-ce que ça se déroule dans les entreprises qui ne sont pas assujetties à cette obligation ?
Oui, je rappelle que ces entreprises n'ont d'ailleurs pas le droit de vérifier le pass sanitaire des employés. Dans le cas où un salarié non vacciné doit faire un PCR pour un congrès ou un voyage à l'étranger, c'est là que ça se complique, confirme l'avocat en droit social Pierre Varin du cabinet Melville. De deux choses l'une, l'employeur peut considérer qu'il n'a pas à rembourser ce test PCR parce que ce surcoût relève du choix personnel du salarié. C'est dans l'esprit de ce que souhaite le gouvernement et ça va dans le sens du question-réponse que le ministère du Travail a publié sur son site. Mais ce questionnaire n'a pas de valeur juridique et la jurisprudence nous dit aussi que tout frais engagé par le salarié pour des besoins professionnels doit être remboursé par l'employeur. Il y a là, devant contraire, un flou juridique et dans le silence de la loi, Pierre Varin conseille aux directions et aux salariés de passer par le dialogue social. Plus un accord sera précis sur ce qui doit être pris en charge ou pas, mieux ce sera pour toutes les parties.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.